Chapitre 58. Il y aurait beaucoup à dire, mais étrangement, le voyage de Rindinghaus Bay à Coxwold est très silencieux. Leslie utilise son kit main libre pour passer des appels concernant d'autres affaires sur lesquelles elle travaille. Une femme violée à Hull. Trois Philippins retrouvés morts dans la cale d'un bateau qui mouille au port de Goole. Les réactions des riverains face à la destruction d'un pub historique à Beverley. Alice se perd dans ses pensées en regardant le paysage défilé. La campagne est belle, inondée par le soleil qui fait briller les champs de colza et de tournesol. Elle observe Frank, immobile et silencieux, la tête posée contre la vitre de la portière. « Tu penses qu'il est où ?» Il hausse les épaules. « C'est pas la première fois qu'il disparaît, tu sais. Il pourrait être n'importe où. » Elle baisse la voix. « Ce que tu m'as dit avoir fait, tu es sûre que tu l'as vraiment... » Elle fait semblant d'étrangler quelqu'un. « Oui, je suis sûre. » Elle hoche la tête. Elle ne peut pas imaginer ce qui se passe en ce moment dans la tête de Frank. Elle le revoit le premier soir, pieds nus, à la sortie du bain, portant les vêtements de Kyle. Il était si vide et si léger à ce moment-là. Maintenant, il semble différent. Appesanti, écrasé par le poids de souvenirs douloureux. Sur le côté de la route, une pancarte indique « Coxwold, 1 mile ». Une minute plus tard, le GPS de Leslie lui demande de tourner à droite. Il ne prononce pas un mot durant les dernières centaines de mètres de leur voyage. Alice observe avec intérêt la beauté de ce village de cartes postales. La grande rue entourée de belles pelouses qui mènent à des maisons en pierre claire, des auberges, des magasins de thé. Il continue vers une église magnifique qui surplombe la vallée et tourne à gauche, empruntant une petite route sinueuse qui s'éloigne du village. Ils sont arrivés. Le vieux presbytère, juste derrière l'église. C'est une belle demeure composée de 3 ailes et qui se dresse au bout d'une allée de gravier entourée d'arbres centenaires. Un gigantesque magnolia en fleurs trône à côté de la porte d'entrée. Leslie arrête le moteur et ils observent la maison un moment. « J'y vais !» se décide Lily en détachant sa ceinture. « C'est ma famille, après tout !» Leslie essaie de protester, mais Lily tend sa main à quelques centimètres du visage de la journaliste. « Non, c'est moi qui ai tout fait pour retrouver cette femme et je ne vous ai rien demandé. « Excusez-moi, » réplique Leslie, « mais il semble que sans nous, vous seriez encore en train de faire tous les magasins de Rindinghaus Bay avec votre album photo. Je crois que Frank et Alice ont aussi le droit d'entendre ce que cette femme a à raconter. Sa vie à lui a été ruinée par ce que son neveu a fait à sa famille. On y va tous ensemble ou je fais demi-tour immédiatement. « Tout ce qui vous intéresse, c'est votre article. « Oui, bien sûr, mon article m'intéresse. » Mais ce n'est pas pour ça que le sort des différents protagonistes me laisse indifférente. « Très bien, » dit Lily après un silence. Son ton outré rappelle à Alice ses propres filles. « Allons-y tous ensemble. » La porte d'entrée se situe à gauche de la bâtisse. Leslie sonne à la porte et ils entendent le bruit de talons sur des dalles. Le battant s'entr'ouvre. Derrière une chaîne de protection apparaît le joli visage pâle d'une femme avec des joues creuses et la peau douce. Un trait optimiste de rose sur les lèvres, une chevelure blonde mêlée de blanc, un parfum de jasmin. « Bonjour !» s'exclame-t-elle avec entrain avant d'afficher un air plus inquiet en découvrant qui se tient derrière la porte. « Excusez-moi, j'attendais une livraison, que puis-je pour vous ?»«
Je m'appelle Lily, je vous ai parlé hier au téléphone, je suis la femme de votre neveu, Marc. »«
Mais c'est impossible, voyons, Marc est mort !»«
Pas du tout, madame !» insista Leslie. « Et si nous sommes ici, c'est parce que cet homme l'a séquestré dans un appartement vide la semaine dernière et que votre neveu, mort, lui a enfin tout révélé, notamment comment vous l'avez secouru sur les rochers, cette nuit où il s'était soi-disant noyé, et comment vous l'avez ramené chez vous, et n'en avez rien dit à personne, pas même à sa mère. »
Kitty Tate plisse les yeux.
« Qui êtes-vous, au juste ?»
demande-t-elle à Leslie.
« Leslie Wade. » répond-elle en tendant sa main. « Journaliste à la Gazette de Rindinghaus. »
Kitty essaie de leur refermer la porte au nez, mais Leslie a déjà glissé son pied.
« Ne vous en faites pas, je n'enregistre rien. Je suis ici en tant que soutien moral. Il n'y aura rien dans la presse. En tout cas, pas tout de suite. Et si c'est le cas, ce sera une vraie enquête avec des interviews, pas de diffamatoire. »
Kitty essaie de fermer la porte une nouvelle fois.
« Madame, vous voyez cet homme? Il s'appelle Graham Ross. » Vous vous souvenez de lui? C'est le frère de Kirsty. Cet adolescent qui est venu chez vous, que votre neveu a attaché dans votre grenier. Mark lui a cassé le bras, il l'a terrorisé. Et Graham a, depuis, passé le reste de sa vie dans des limbes, incapable de se souvenir de ce qu'il s'était passé ce soir-là.
Elle s'arrête et tente d'ouvrir un peu plus la porte. Mais Kitty pousse pour tenter de la maintenir fermée.
Maintenant, il se souvient. Il se souvient de tout ce que Mark a fait. Et vous avez le devoir, Kitty, de lui dire ce que vous savez.
Kitty lâche la porte et réapparaît dans l'embrasure. Elle regarde Frank.
Mon pauvre garçon,
lui dit-elle, les yeux pleins de larmes. Elle se reprend et se tourne vers Leslie.
Il peut rentrer, mais tout seul.
Non,
s'écrie Lily. Kitty l'ignore et s'adresse à Frank.
Entrez, s'il vous plaît. Je vous dirai tout ce que je sais.
Frank regarde Alice, puis Kitty.
Est-ce que je peux entrer avec mon amie, s'il vous plaît? Elle m'a beaucoup aidée. Elle n'est pas directement liée à cette histoire, mais c'est une bonne personne.
Kitty acquiesce et ouvre la porte pour les laisser passer. Il se retourne vers Lily et Leslie avec un sourire désolé.
Bon, vous voulez aller manger des scones?
Propose la journaliste à Lily.
Des scones?
Des gâteaux, allez!
Kitty les installe dans la cuisine où les meubles en bois foncé côtoient ceux en formica blanc cassé. Des luminaires descendent au-dessus d'un îlot central et, au bout de la pièce, deux larges canapés complètent le décor, près d'une baie vitrée qui ouvre sur un jardin parfaitement entretenu. Elle les invite à s'asseoir, prépare un thé dans une grande théière à pois et ouvre un paquet de biscuits au gingembre confit. Elle s'assied également, effaçant les plis formés par son pantalon bleu marine.
« Je suis désolée pour ce qui est arrivé, » dit-elle à Frank. « Votre père et votre sœur, j'aurais aimé. » Dès qu'il est rentré de la plage en me parlant de cette gentille famille pour laquelle il fallait faire un gâteau, j'ai tout de suite su qu'il y avait un problème, que ça n'allait pas bien se finir. Mark a toujours été... »
Elle s'arrête, soulève un instant le couvercle de la théière et remue le contenu.
« Problématique. » Le frère de mon mari et sa femme l'ont adopté quand il était assez âgé. Il avait 8 ou 9 ans, il me semble. Leur fille était une adolescente très indépendante, et je crois qu'ils avaient envie de continuer de s'occuper d'un enfant. Mais ils ne voulaient pas non plus tout reprendre à zéro avec un bébé. Mark était un garçon adorable. Il leur était tellement reconnaissant, et il ne s'imaginait pas qu'il serait si difficile d'élever un enfant qui a été maltraité. Il pensait pouvoir panser ses blessures et lui apporter tout l'amour dont il avait manqué, mais ils avaient tort. Le mal était trop profond.
Elle remplit leurs 3 tasses, repose la théière sur le dessous de plat et tend à Alice un petit pot de lait.
« Je vous laisse vous servir en lait. Nous avons tous nos préférences, n'est-ce pas ?»« Enfin, mon beau-frère et sa femme ne s'en sortaient pas avec ce petit. Ils les épuisaient. Ils voulaient les plus beaux vêtements, les meilleurs jouets. » Et l'attention constante de ses parents. Sa sœur, Camilla, a quitté la maison familiale à 17 ans pour aller vivre chez une amie parce qu'elle ne supportait plus ce qu'il se passait chez elle. Et bizarrement, Mark s'est toujours bien comporté avec moi et mon mari. Peut-être parce que nous n'avions pas eu d'enfants. Peut-être parce qu'il ne vivait pas avec nous et que nous n'avions pas à l'éduquer. Nous avions ce grand terrain, continue-t-elle en montrant le parc derrière la baie vitrée. Nos chiens. Et la maison de bord de mer. Il passait ses vacances avec nous et venait souvent le week-end. Ce n'était pas des moments faciles. Mark n'a jamais été un enfant facile. Mais il était moins compliqué avec nous. C'est moi qui avais le lien le plus fort avec lui. Quand il a grandi, j'ai remarqué de nombreuses zones d'ombre dans sa personnalité. Elles se manifestaient surtout en présence de filles. Il se comportait parfois comme une brute. Il pensait qu'elles étaient là pour assouvir tous ses désirs. Je l'ai vu traiter certaines de celles qu'il emmenait ici en week-end très mal, alors que c'était des jeunes filles charmantes qui l'adoraient.
Elle secoue la tête et soupire.
Je m'inquiétais déjà à cette époque. J'avais peur que quelque chose de terrible se passe. Mais il revenait toujours me voir avec son sac pour le week-end, une boîte de chocolat et un gros câlin. J'adorais ces câlins. Mon mari ne m'en faisait pas beaucoup. Je crois que c'est Mark qui m'en a donné le goût. Il prenait les chiens dans ses bras, jouait avec eux dehors, leur lançait des balles pendant des heures. Je restais assise ici à le regarder, à me dire que ce n'était qu'une phase, qu'il rencontrerait une fille qui le ferait changer et que tout finirait par rentrer dans l'ordre. Mais quand mon mari est décédé, Mark ne l'a pas très bien vécu. Il m'en voulait, je crois.
Il ne me prenait plus dans ses bras. Les chocolats et les rires ont cessé. Pour être honnête, je n'étais pas très à l'aise quand nous n'étions que tous les deux. Il avait déjà rompu les liens avec ses parents à cette époque et il vivait chez nous. Il l'avait renié à ses 18 ans, à la suite d'un accident.
« Un accident ?»
demande Frank. Kitty se concentre de nouveau sur les plis de son pantalon. « Il s'est passé quelque chose avec une fille, une amie de sa sœur. Elle n'a pas porté plainte, mais c'était grave, et ses parents ont décidé de couper les ponts. « Impardonnable, vraiment, » ajoute-t-elle en secouant la tête doucement. Après la disparition de mon mari, je lui étais reconnaissante d'être là, mais au bout de quelques semaines, c'est devenu très difficile de vivre avec lui. Nous sommes partis à Riding House Bay pour passer l'été, comme d'habitude, et je pensais que là-bas, les choses s'arrangeraient. Mais en réalité, il semblait encore plus à cran dans le Yorkshire. Il était en colère contre moi et le monde entier. Il y avait quelque chose de néfaste en lui. Je me suis mise à fermer la porte de ma chambre à clé la nuit. Elle les regarde pour juger l'effet de cette dernière confidence. Un jour, il est rentré à la maison et il semblait si heureux. Il voulait faire un gâteau pour cette gentille famille. Il m'a dit qu'il y avait une jeune fille, et une partie de moi a voulu croire que c'était elle, celle qui allait tout changer, qui allait le guérir. Vous êtes arrivée et j'ai vu Kirsty. Elle était si jeune, si pure, et j'ai compris qu'elle serait complètement incapable de gérer l'âme torturée de Mark. J'ai commencé à avoir peur. Alice observe Frank. Que se passe-t-il dans sa tête ? Son visage n'exprime aucune émotion. Il a fini par lui demander de sortir avec lui, poursuit-elle en tapotant sa tasse de thé délicatement. Il avait l'air amoureux. Il lui a acheté des fleurs, il l'a invité au cinéma. Jusqu'au jour où il est rentré en disant que c'était fini. Qu'il s'en fichait. Enfin. Qu'il n'en avait rien à foutre, pour reprendre ses mots. Qu'il méritait mieux. Que c'était une petite... Elle s'empêche de dire la suite. Il n'était pas très gentil. Ça a duré un ou deux jours. Puis j'ai cru qu'il était passé à autre chose. L'une de ses amies allait venir, une chanteuse d'Arrogate. Il a prévu d'aller la voir jouer avec d'autres connaissances. J'étais soulagée. Vraiment. Je pensais que c'était fini, qu'il avait accepté la mort de mon mari. L'obsession inquiétante qu'il avait développée pour Kirsty n'était plus qu'un souvenir distant. Il m'a demandé si je pouvais lui laisser la maison une soirée parce qu'il voulait organiser une fête après le concert, en profiter pour inviter d'autres gens de la ville qu'il aimait bien. Il m'a dit que la fête se tiendrait seulement dans le bar, au rez-de-chaussée. Qu'il ferait bien attention. Alors j'ai accepté. Je voulais le rendre heureux, lui qui avait été si triste. Je voulais tant qu'il se comporte de façon normale, après toutes ces anormalités. Je suis restée ici pour la nuit. C'était très agréable de pouvoir profiter de la maison toute seule, sans me soucier de Mark. Jusqu'à ce coup de téléphone. Elle serre la mâchoire. Il m'a appelée d'une cabine téléphonique. Il était 1 heure du matin. J'ai un problème. Je n'oublierai jamais ces mots. J'ai un problème. C'était comme s'il avait attendu cet appel-là pour me dire ce qu'il ressentait depuis le début. Enfin. Il respirait mal. Il souffrait. « Je vais mourir, » répétait-il. « Je vais mourir. » Il ne voulait pas que j'appelle la police. Je ne lui ai pas demandé pourquoi. Je le savais déjà. Pas ce qu'il avait fait, mais pourquoi. J'ai pris la voiture et je l'ai trouvé, au milieu de Middlehurst Bay, assis sur les rochers, dans une mare de sang. Sa peau était à la fois blanche et bleue, comme un monstre rejeté par la mer. Je me suis garée et je me suis élancée sur les rochers. Je portais des chaussures à talons, la première paire que j'avais attrapée avant de sortir de chez moi. Je suis tombée, je me suis ouvert la jambe. J'ai encore la cicatrice, regardez. Elle relève un instant le bas de son pantalon pour leur montrer une couture verticale sur son tibia gauche. La mer était déchaînée ce soir-là, les vagues assourdissantes. Je voyais les lampes torches des gardes-côtes sur leurs bateaux. Les bateaux de sauvetage qui prenaient la mer, les lumières qui s'allumaient en ville. Riding House Bay était complètement réveillé. Je n'oublierai jamais ces moments. J'ai réussi à atteindre Mark et à le faire tenir debout. Les bateaux se rapprochaient. Nous n'avions que quelques minutes pour partir. Mais il m'a montré quelque chose du doigt en contrebas. « Va voir si elle est morte. » Frank retient son souffle et se raidit. Alors je suis descendue et elle était là.
« Elle, vous voulez dire Kirsty ?»«
Oui, bien sûr. Mark ne vous a pas dit ?»«
Dis quoi ?»
demande Frank d'une voix rauque. « Oh !» réagit-elle, l'air troublé. « Je pensais que... Qu'est-ce qu'elle vous a raconté au juste ?»«
Qu'il l'avait lâchée. » Qu'elle avait disparu, qu'il n'avait rien pu faire pour la sauver.
Kitty blêmit et touche nerveusement la perle qui pend au bout de sa chaîne en or. Je ne savais pas ce qu'il s'était passé. Au début, je me suis dit qu'ils étaient tous les deux drogués, saouls, et qu'il avait peut-être essayé de la sauver. Quand je l'ai trouvée, j'ai senti son pouls. Elle était encore vivante, mais sans connaissance.
Vous n'avez pas appelé d'ambulance ?
S'indigna Frank, une veine dans son cou palpitant de rage.
« Vous n'avez pas ?»
Il avait un couteau.
« Mark ?»
demande Frank, incrédule.
« Vous avez dit qu'il était blessé, qu'il avait perdu énormément de sang. »
« C'est vrai. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Quand je suis remontée, il m'a demandé comment elle allait. J'ai répondu qu'elle respirait encore. Il m'a dit « Emmène-nous loin d'ici, tout de suite. » J'ai protesté, bien sûr. J'ai insisté pour appeler une ambulance. Il s'est approché de moi en titubant. Il avait un couteau. D'un coup, il l'a plaqué contre ma gorge en me serrant fort. J'ai pensé qu'il allait me tuer.
Elle s'arrête pour boire une gorgée de thé.
On a transporté votre sœur dans ma voiture. On l'a allongée sur la banquette arrière.
Elle respire encore ?
Frank n'a pas l'air d'y croire une seconde. Oui, elle était vivante.
Vous avez essayé de la réanimer ?
Il m'en a empêché.
Et elle est morte.
Les larmes ont transformé les yeux de Kitty en deux billes de verre. Elle hoche la tête. Une fois. Quelques minutes plus tard, à la moitié du chemin.
Sur la banquette arrière de votre voiture ?
Les larmes baignent les joues pâles de Kitty. Elle les essuie avec le dos de sa main. Je suis tellement désolée. J'avais très peur. Il me menaçait. Je ne savais pas.
« Où est-elle ?»
demande Frank, qui pleure lui aussi.
« Où est ma sœur ?»
Elle, mon Dieu, excusez-moi, je suis tellement désolée. Nous avons garé la voiture dans le garage, au fond du jardin. Nous sommes restés à l'intérieur pendant des heures. Vraiment des heures et des heures. Elle était juste derrière nous. J'étais en panique totale. Nous attendions que quelqu'un arrive. Nous attendions les sirènes de police.
Elle se cache le visage dans les mains.
J'avais allumé la radio pour écouter les informations locales. Nous avons attendu jusqu'à ce que, le lendemain midi, on entende qu'ils avaient abandonné les recherches. Il y avait encore des gens de la ville qui continuaient avec leurs propres bateaux, mais les recherches officielles étaient terminées. Un policier a frappé chez moi ce soir-là pour m'annoncer la nouvelle. Mark et votre sœur s'étaient noyés. Votre père avait essayé de les sauver et était mort en héros. On ne m'a pas parlé de vous. J'ai dû faire semblant d'être choquée.
« Mais qu'est-ce que vous avez fait du corps de Kirsty ?» s'écrie Frank en se levant. « Où est-elle ?»
Kitty se replie sur elle-même, comme si elle essayait de disparaître sous terre. Puis, elle se lève lentement.
« Suivez-moi. »
Alice regarde Frank, qui jette un regard alarmé.
« Venez. »
Ils suivent Kitty jusqu'à une porte-fenêtre. Elle décroche une clé dissimulée derrière le rideau, ouvre et les invite à la suivre dehors. Elle les guide à travers le jardin, au milieu des parterres de fleurs des champs, des vases couverts de lichens, des saules pleureurs, jusqu'au bout du terrain, là où la campagne commence. Un grand chêne majestueux semble vouloir envahir le ciel bleu de ses feuilles vertes. Kitty se place à côté d'un rosier orné de petits bourgeons blancs.
Elle est ici.
Vous l'avez enterrée ?
Non, je ne l'ai pas enterrée, bien sûr que non. Mark l'a fait. Il m'a enfermée dans la maison et l'a fait tout seul. Moi, j'ai planté le rosier.
Frank tombe à genoux sur l'herbe douce et printanière. Il ouvre grand les mains et caresse le sol.
Il lance à Kitty un regard de haine pure.
« Pendant toutes ces années !»
Sa voix se brise.
« Ma mère !»
Il ne s'est pas passé un jour sans que je pense à votre mère.
Franck la foudroie du regard.
« Où est-il? Dites-moi où il est !»«
Je ne sais pas. Je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis le jour où il m'a demandé de parler au téléphone à cette jeune femme en me faisant passer pour sa mère. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Pour me blesser, je crois. Pour me faire du mal, probablement. Je lui ai souhaité bonne chance et je lui ai dit que je ne voulais plus rien avoir à faire avec lui. » Même si nous ne partagions déjà plus rien depuis qu'il avait changé d'identité. C'était trop risqué pour lui de me parler ou de me rendre visite. Je lui ai dit que je ne voulais pas jouer à son jeu malsain. Je lui envoyais de l'argent. J'espérais qu'il s'installerait avec elle et qu'il aurait une vie normale. Cette femme avait l'air de pouvoir s'occuper d'elle-même. Elle avait l'air forte. Je ne m'en suis pas mêlée.
Franck fixe le sol où sa sœur a été enterrée 22 ans plus tôt, anéantie. Alice s'accroupit à ses côtés et passe son bras autour de ses épaules. Il regarde Kitty à nouveau.
« Ces derniers mots !»
demande-t-il d'une voix étranglée par le chagrin.
« Il n'y en a pas eu, Graham. Elle n'a même pas ouvert les yeux. »«
Je ne comprends pas !»
explose-t-il, des larmes coulant sur ses joues.
« Comment avez-vous pu vivre dans cette maison ? Vous asseoir dans votre belle cuisine, manger vos repas, regarder la télé, tout en sachant qu'elle était juste là ? Comment avez-vous pu ?
Je ne vis pas là !
Crie Kitty.
Je ne peux pas ! Je vis à Riding House Bay, dans le grenier. Je déteste cette maison. Je voudrais pouvoir la vendre, recommencer à zéro, mais je ne peux pas. Il y a un corps enterré dans le jardin. Si je suis ici, c'est à cause de cette femme avec laquelle vous êtes venue. Elle m'a appelée hier matin. Je ne sais pas ce qui m'a pris de décrocher, c'était idiot. Elle essayait de me joindre depuis 2 heures. Je pensais que c'était Marc, alors je ne répondais pas. Au bout d'un moment, elle a abandonné. Un autre numéro m'a appelé, un portable. Et je savais que ce n'était pas celui de Marc. J'attendais un autre appel, alors bêtement, sans réfléchir, j'ai décroché. Mon Dieu. Et à ce moment-là, quelqu'un a appuyé sur la sonnette et j'ai cru que c'était elle. J'ai pris toutes mes affaires et je me suis enfuie.
« C'était nous, »
dit Alice. « On ne vous a pas vu partir. Il n'y avait pas de voiture. »
Je suis descendue par les jardins. J'ai pris l'escalier qui descend la falaise. Il y a un garage au niveau de la plage. Je n'aime pas que les gens sachent que je suis là. J'aime être invisible. C'est pour ça que j'ai encore cette horrible, abominable maison. Ce n'est pas parce que je suis insensible, je vous assure. Depuis cette nuit où votre sœur est morte, je souffre. Chaque jour.
Plus personne ne parle. Alice se relève, puis ne bouge plus. Franck est toujours à genoux devant le rosier, terrassé par le chagrin, la culpabilité, l'horreur et le mensonge. Le silence est total.
« Il faut qu'on rejoigne les autres, »
annonce Alice en se retournant vers la maison.
« Il faut qu'on prévienne tout le monde. »